Chapitre 29. Le curé du village était passé plusieurs fois voir la mère au moment du départ d'Amanda, tant pour s'assurer que la vieille femme supportait bien la solitude, que pour glaner quelques éventuelles informations sur le sort d'Amanda. La mère l'avait toujours reçu avec une joie vampirique non dissimulée, se réjouissant de le prendre pour victime de son insatiable besoin de parler. « Entrez donc, mon père. Oh, bien sûr, je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais notre seigneur lui-même ne possédait que son vêtement. « Asseyez-vous, tenez, au coin de l'âtre, moi je me mets dans mon fauteuil. Vous savez, à mon âge, on a ces petites manies. Comme c'est gentil d'être venu me voir. Vous voyez, je suis bien seule. Oh, je ne me plains pas. J'ai eu ma part de belle vie, vous pouvez me croire, et chacun se doit de perdre ses privilèges sans gémir. Tant que je suis capable de me faire à manger et de me tenir propre, vous ne m'entendrez pas me plaindre, mon père. Ça, j'y mets un point d'honneur, c'est une question de dignité. Avez-vous des nouvelles de vos filles? Pas la moindre, figurez-vous. Amanda aurait disparu en mer que je ne serais même pas au courant. Vous savez, Amanda a toujours eu son petit caractère, et elle n'en fait qu'à sa tête, depuis son âge le plus tendre. Ce n'est pas l'image que j'ai d'elle. Croyez-moi, je suis sa mère, et je la connais mieux que personne. Ça, on ne peut pas dire, elle en a dans la tête. Parler avec elle a été mon plus grand plaisir. Même lorsqu'elle était toute petite, voyez-vous, c'était une enfant si précoce qu'on oubliait souvent qu'on avait affaire à une enfant. Le curé, fasciné par le lieu et le personnage, essayait de se représenter l'enfance d'Amanda. Il revenait régulièrement et prit la peine de venir tous les jours lorsque Miranda, revenue, tomba malade. La mère, alors, veillant sur l'âtre, les laissait seules, et le prêtre s'asseyait sur le lit étroit de la jeune femme. Miranda, avec effort, s'arrachait à sa fièvre. « Je suis en dehors de ce monde, » murmurait-elle. « C'est comme une cloison invisible qui me retient. » « Il te faut revenir, Miranda. Il te faut percer ce voile. »« Je suis trop faible, mon père. Mes mains n'ont plus de force, et la cloison s'épaissit de jour en jour. »« C'est ta fièvre, Miranda, qui te fait parler ainsi. Elle sera tombée bientôt. » Miranda secoua la tête. « Ma fièvre n'est qu'une apparence, mon père. La réalité est tout autre. Il n'y a rien pour me nourrir. Il n'y a pas d'air pour mes poumons. Il y a le monde qui t'attend ici. Il y a ta vie à vivre. » C'est le monde qui m'a chassée, parce que je n'ai ma place nulle part. Demandez à ma mère, ni mon mari, ni le village, personne ne veut de moi. Le désir des autres est changeant, mon enfant. C'est ton désir à toi que tu dois retrouver. Où est-il, mon père, où est-il? Je suis si fatiguée. Le curé observait un moment de silence désemparé, cherchant en vain une réponse qui fasse revenir la vie sur ce visage aux paupières de plomb. Lorsqu'il reprenait enfin la parole, cependant, Miranda avait disparu, noyée dans les brouillards de son mal, ne laissant pour toute trace d'elle que son corps fantomatique. « Je suis inquiet pour elle, » disait-il à la mère en partant. « Elle s'en sortira, » disait la mère. « Vous savez, à la naissance d'Amanda, lorsque mon mari a oublié de fermer la porte et que nous avons tout perdu. » Miranda a été très courageuse. Ce jour-là, j'ai compris qu'elle n'avait pas hérité que la beauté, mon père, mais aussi la noblesse. Elle fera face à l'adversité. Et le curé, troublé et dubitatif, sortait comme à regret de cette étrange maison dormante.